With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'asiatiques, d'arabes, de blancs, de noirs, de roms, tout ça sans complexe.
Aujourd'hui dans Kif Taras, on est de nouveau en retour en studio et on a la grande chance d'avoir avec nous Mai Hua, notre invité du jour.
Bonjour
Mai. Et on va aborder son parcours. Alors on va attendre qu'elle arrête de rire parce que là, depuis tout à l'heure, elle apparemment...
C'est nerveux.
Oh non, pardon, excuse-moi. Je pensais qu'il y avait... truc drôle dans ce que je disais.
Ah non.
Tu es réalisatrice, vidéaste, color designer, ouais, et blogueuse. Tu es la créatrice d'un film récit documentaire intitulé Les Rivières, terminé en 2019, dont on va parler ensemble. Merci d'être là pour Kif Taras.
Merci à vous. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis hyper heureuse.
Bon, on est ravis. Hein. Merci. J'ai eu le plaisir de découvrir ton travail documentaire. C'est un très très beau film que j'ai découvert et une très très belle histoire dont on va parler. Nous avons un petit rituel. On demande à nos invités si elle se situe sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et moi, je suis noire. Est-ce que toi, Mai, tu te situes ?
Du coup, j'ai préparé ma réponse.
Ah, tu nous écoutes, c'est trop bien.
J'ai préparé ma réponse pour venir parce qu'en fait, je me suis jamais positionnée au niveau racial. Ça m'a jamais traversé l'esprit et en même temps, je vois bien aujourd'hui que c'est au moins un minimum intéressant de me poser la question. Et ma réponse, c'est que je me suis toujours présentée comme française d'origine vietnamienne. Mais pour moi, ça voulait dire que ma culture, la culture de mes parents était vietnamienne et que du coup j'étais culturellement métissée. Mais du coup, c'était pas racial. Mm-hmm. Pour moi, c'est pas un propos racial, c'est un propos vraiment culturel. Mm-hmm. Je me suis jamais sentie jaune, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Évidemment qu'il y a eu du racisme parce qu'on me voyait comme asiatique ou comme jaune, qu'il y a eu Michel Leeb, ça m'a jamais posé de problème. J'ai jamais eu de problème pour mes études, pour trouver un appart, pour trouver un mec, pour trouver un emprunt. Enfin, j'ai écouté votre épisode sur la blanchité et de ce côté-là, je suis blanche. Je suis clairement blanche. Ouais. Donc, je me suis jamais posé la question jusqu'à la réalisation des rivières, et pas vraiment la réalisation en fait, mais la diffusion des rivières. Où là, je sens bien qu'il y a quelque chose qui, entre guillemets, coince, et où un film qui met en scène quatre femmes de culture vietnamienne, d'origine vietnamienne, et ben en fait, ça pose problème.
Et quel problème ça pose ?
Ça pose problème dans le sens où, d'un point de vue systémique, rien n'est là pour accueillir ce propos et pour le diffuser et pour le soutenir. Et en fait, c'est quelque chose de totalement nouveau pour moi parce que mon projet, il a toujours été dans l'ordre de l'intime. Donc, j'essaie de comprendre ce qui intimement vibre chez moi, au-delà de mon passé, au-delà du passé de mes parents, au-delà de la transmission intergénérationnelle qui se fait de manière mécanique, en fait. Et puis là, j'arrive dans un système qui est plus grand, qui est un système national, politique, et où donc le cheminement que j'ai fait jusqu'à maintenant va pouvoir m'aider, mais pour l'instant, c'était pas du tout mon propos. J'ai pas eu le CNC, ni au début, ni après.
Quand t'appelles le CNC, Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, qui subventionne les films film.
Exactement. Et du coup, qui conditionne totalement, en fait, comment l'audiovisuel en France est produit et diffusé. Et donc, en fait, dans ce parcours, j'ai vachement de chance parce que je viens du digital. J'ai une communauté hyper bienveillante qui m'a donné confiance, qui a cru en mon projet, qui m'a dit « mais vas-y », parce que ça fait 9 ans que j'ai ouvert ce blog et j'ai fait des centaines de vidéos sur ce blog. Et il y a un moment donné où ma communauté m'a dit « vas-y, t'es prête pour un long. Vas-y, on t'attend sur... un projet sur ta famille, parce que ça fait longtemps que tu la filmes, on sait que t'es prête, vas-y. » Et ça m'a donné énormément de confiance, mais tout d'un coup, voilà, j'arrive sur un projet qui est plus grand que celui que ma communauté soutient. Et là, je vois bien que si j'avais été un homme blanc qui va susciter des discussions de fond avec son père, avec son fils, avec son grand-père qui va aller chercher à l'autre bout du monde, qu'il renaît de ses cendres, enfin c'est ce qu'on nous en raconte dans notre histoire, que ce film fait ses preuves dans le sens où les gens qui le voient sont émus, ça agite les familles, ça... Voilà, évidemment que le système aurait poussé ce projet.
C'est un peu ce qu'a fait l'évidence. Eric Caravaca avec son film sur sa famille.
Totalement, c'est... totalement, qui est un film magnifique.
Très très beau film.
Carré 35, qui d'ailleurs m'a donné beaucoup de foi dans mon projet, parce que j'étais en fin de parcours, mais j'avais encore beaucoup de choses à dépasser. Parce qu'en fait, c'est un acte de libération qui est hyper fort. Et en fait, c'est couche après couche après couche qu'on se rend compte que... Ah oui, non mais là, en fait, je manquais de confiance. Et donc, il faut que je me libère de ça tout le temps. Et ce film m'a vachement aidée, quoi. Et effectivement, ce film, il a été soutenu.
Il est sorti en salle, moi.
Il est sorti en salle. Et il est magnifique.
Il donc, a eu le CNC, j'imagine.
Ouais.
Probablement.
Mais du coup,
c'est plus.
Mais du coup, le propos n'est pas de dire que le projet Carré 35 ne vaut pas la peine d'être vu, ou qu'il est mauvais, ou qu'il est fait par une mauvaise personne. C'est cette question du privilège, quoi.
C'est la perception qui est différente, ouais, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ce film en salle sans me poser de questions, mais en fait, maintenant que tu décris ton film de manière... En remplaçant ton personnage par celui d'un homme blanc, j'ai pensé à celui-là et je me suis dit, c'est vrai que finalement, c'est un récit très, très universel que tu livres. Ouais. Mais qui n'est pas perçu comme
mais
ça.
Qui est perçu comme un film asiatique.
Voilà, qui est perçu comme un film de...
C'est bien grâce, tu mets les pieds dans le plat.
Non, mais qui est effectivement...
Un conte vietnamien, en fait, c'est.
Si seulement. Si seulement, en fait. Parce que si c'était perçu comme un conte vietnamien, eh bien, peut-être qu'il y aurait une case préétablie qui pourrait l'amener à l'universel.
Oui, genre film étranger.
musique du monde et tout ça. Tu vois.
Ah ouais, là, ça
c'est-à-dire
ça
qu'il y a une case dans laquelle le film est pensé.
Mais ton film, en fait, se déroule juste pour que les gens situent. Oui. En fait, à partir de ton histoire, tu racontes l'histoire de plusieurs générations de femmes entre la France et le Vietnam.
Voilà.
Et donc, tu le racontes à la première personne.
Exactement.
Du coup, c'est un film qui est quand même situé essentiellement en France, bien qu'il y ait des liens assez forts avec le Vietnam, avec le passé,
territoire,
et plusieurs générations.
Mais lié à ta famille.
Qui est lié à ma famille, qui est lié à... une quête sur l'individu, en quête par rapport à son histoire personnelle, qui est une histoire, je pense, universelle, et qui est aussi une quête sur le féminin, quand même. Il y a une vraie quête sur qu'est-ce que ça veut dire être une femme, est-ce qu'on peut être une femme sans avoir peur d'être une femme. Donc il y a eu une vraie, pour moi, reconquête de mon histoire humaine et féminine. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y avait pas un cheminement spécifique sur d'intersectionnalité, par exemple. Je n'avais pas comme dessein de montrer un parcours intersectionnel. Et je me le prends en pleine face aujourd'hui. Mmh. Et en fait, c'est vachement bien parce que ça me fait cheminer aussi sur le pouvoir des images et de ce que mon histoire peut raconter et comment c'est projeté, en fait, dans l'imaginaire collectif.
Ben, on va revenir sur comment tu t'es pris ça en pleine gueule.
Ouais.
Et on va recommencer un tout petit peu avant sur ton parcours, parce que moi je te suis depuis longtemps, depuis avant de t'avoir rencontré, et pour moi ce film il est comme un prolongement de ton travail. Quand tu parles d'intime, t'as toujours parlé d'intime, depuis que t'as commencé à faire des vidéos sur ton blog, donc tu écris et tu fais des vidéos, tu es vidéaste pour ton blog Super by Timaï qui a commencé en 2011. Déjà j'ai t'attiré parce que tu parlais vachement de ta famille, tu filmais des repas vietnamiens, enfin des repas vietnamiens quand c'est avec ta mère, ou voilà, tu filmes des prières aux ancêtres, tu filmes des choses très intimes. Et je me suis dit, moi, je me rappelle de cette anecdote, je m'étais dit, waouh, c'est super, c'est une fille. Et je voyais que les gens qui te suivaient étaient tous blancs, enfin, blancs ou blanches, c'était
ouais.
des femmes.
Ouais,
souvent.
Des femmes, ouais.
Et je me dis, waouh, en fait, dès qu'il y avait un truc hipster, hype, c'était tes copains. Je me dis, elle, en fait,
avant.
Elle parle des trucs viettes et tout le monde la trouve super et c'est, tous les blancs la trouvent super. Je dis, c'est génial, comment elle fait?
Mais c'est vrai que c'est marrant parce que. Comment dire ? Moi, j'ai vécu dans un village en banlieue parisienne où on était les seuls asiatiques du village. Ça ne nous a jamais posé de problème. On n'a jamais été les Chinois du coin. Jamais. J'ai vécu et grandi avec deux frères, Mai, Lam et Anne. C'était Mai, Lam et Anne. Dans toute notre singularité, effectivement, il y avait Michel Leb, effectivement, il y avait des blagues sur nos yeux bridés, mais nous, on disait, bah ouais, mais toi, t'as les yeux ronds, c'est pas mieux. Et puis, en fait, et on était morts de rire et c'était... Comment dire, on était pris dans une singularité qui était intègre, il y avait une intégrité qui était respectée. Et donc, du coup, on n'était jamais réduit ou essentialisé au fait d'être jaune à face bridée, quoi.
Tu t'es jamais senti humilié, c'est ça ?
Jamais. Mmh. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, les copains, la maison, c'était, ou nos maisons, parce que mes parents ont été séparés après, c'était des lieux où il y avait vachement de vie sociale. Donc les copains, ils passaient, ils mangeaient avec nous, nos plats, ils voyaient l'hôtel des ancêtres. Donc on n'a jamais senti que c'était une limite. Ça a toujours étendu le regard de nos copains, ça a toujours étendu l'horizon de notre sphère sociale. Et donc, quand j'ai commencé à bloguer, mon propos n'était pas du tout d'amener une culture asiatique dans la sphère blanche française, mais juste de dire qui j'étais. Quoi. C'était un projet très existentiel de dire, bah, voilà qui je suis.
Et moi, je trouve ça hyper intéressant, ton témoignage de comment tu as grandi, parce que quand on parle de racisme, on reçoit beaucoup de témoignages de personnes qui, justement, n'ont pas vécu cette vie-là, qui vivent une vie où ils étaient mis au banc de la société, où on s'est moqué d'eux, ils se sentaient humiliés et qui n'avaient pas, ils n'avaient pas cette relation avec les autres. Et beaucoup de gens me disent, et je pense que ça n'a jamais été ton cas parce qu'on en a déjà parlé ensemble, beaucoup de gens m'ont dit, mais moi, j'ai pas vécu ça, donc ça n'existe pas. Et je sais que toi, tu n'as jamais dit ça.
Enfin, non.
Tu m'as toujours dit, oui, moi, j'ai pas vécu ça, mais ça peut exister.
Bien sûr,
donc,
bien sûr.
Et en plus, je trouve que il y a dans ta parole et dans ta posture une sorte de responsabilité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vécu, mais justement, je contribue à ce que ça puisse ne pas arriver pour d'autres.
Exactement. Donc du coup, par exemple, pour le Tet, qui est le nouvel an vietnamien, ou dans d'autres pays asiatiques, bah, souvent, je vais dans la classe de mes enfants pour expliquer ce que c'est. Et on le fait pas... on le fait de manière très simple, en fait. C'est juste, bah, voilà qui on est. Et en fait, c'est bien pour vous de nous rencontrer. C'est bien pour vous. On enrichit, en fait, votre expérience. Et du coup, ça ne dit pas que le racisme n'existe pas ou ça ne dit pas que votre Noël ne vaut rien. Mais ça dit, voilà, en fait, on vit ensemble. Et du coup, on a tout intérêt à savoir qui on est.
Et je voudrais juste raconter une anecdote par rapport à... Moi, j'ai commencé mon blog à peu près en même temps que toi. Mmh. Bon, moi, ça marchait pas du tout, hein, pas comme toi en tout cas. Et donc, tu faisais partie des personnes que j'admirais. Je me disais, comme, oh, c'est génial ce qu'elle fait, je suis hyper inspirée, tu vois. Mmh. Et un jour, j'avais fait un espèce de top 10 des femmes qui m'inspirent, des femmes asiatiques qui m'inspirent, parce que j'avais envie de faire un truc, une liste des personnes qui à qui je m'identifiais et qui en plus me ressemblaient.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Et je t'avais mis toi et une autre femme française asiatique que je nommerai pas.
Ouais. Parce qu'elle t'inspire plus.
Bah, complètement pas. Bah, depuis ce jour-là, non. Et donc, en fait, je t'ai tweeté. J'ai dit, voilà, dans ce top, j'ai mis Maïa. Toi, tout de suite, t'as fait merci, c'est génial. Tu vois, comme t'es d'habitude, love, bisounours.
Mais je suis pas bisounours. Love, c'est un projet hyper important.
Et la fille, l'autre fille. Elle a tweeté un truc du genre, elle a répondu en disant « Ah bah, je vois avec consternation que je suis dans un top asiatique de femmes françaises. » Et elle dit « Mais moi, je ne me suis jamais vue comme asiate. » Et sa copine lui répond « Ah non, mais moi, je ne t'ai jamais vue comme asiate. » Okay. J'étais sur le cul, je me dis « Mais
ma
il te voit comment en fait ?»
Ouais.
Alors parce que, enfin, t'es une femme, certes, mais t'es aussi asiate, donc si...
Ouais.
Et maintenant, enfin, des années après, ça devait être genre, tu vois, vraiment au début, 2012, peut-être, je sais pas. Et des années après, maintenant, je me rends compte que tout ça, ça a un sens, en fait.
Bien sûr.
Bah, c'est bizarre, c'est que même si l'expérience, elle se reconnaît pas dans la même expérience que toi, Je veux dire, en France, dans le contexte français, dire qu'elle se voit pas comme asiatique, enfin, c'est bien sûr qu'on aspire tous à être vus dans notre humanité singulière, etc. Mais concrètement, du fait de l'histoire, il y a un traitement de notre travail, de notre humanité qui est celui-là, quoi. Et du coup, le nier, je trouve ça bizarre. Ouais. Et à la limite, elle aurait pu dire, bah, merci, enfin, tu vois, juste merci, quoi.
Ouais, merci.
Ça va, tu vois.
Mais je pense qu'il y a un chemin qui a été fait entre 2012, peut-être, et aujourd'hui, par rapport aux identités, tu vois. Genre, là, tu vois tous les mecs hype faire George Floyd. Black Lives Matter, tu vois, enfin c'est super et je serais contente pour ces gens-là qui aient une prise de conscience. Mais il y a aussi un color blindness qui s'empare des élites, notamment toi tu travailles dans le luxe, tu travailles dans l'image, ou voilà, elle travaille dans la gastronomie, bon, mais c'est pareil, c'est des milieux assez privilégié, dans lequel il y a beaucoup de personnes blanches qui évoluent, et du coup tu vois, le fait que je lui ai rappelé son faciès, elle s'est sentie presque, tu vois,
démasquée,
elle a voulu se désolidariser de moi
en disant attention, je suis comme vous.
Donc, c'est vrai que moi, quand je recevais des messages de personnes asiatiques, de femmes asiatiques, notamment des jeunes femmes, tu vois, qui me disaient ça me fait un bien fou, tu vois, ça me fait un bien fou en fait de voir un visage dans lequel je peux me projeter, parce qu'on parle beaucoup de projection dans ces cas-là, et moi j'étais contente pour elle en fait. Donc c'était pas mon propos, mais j'étais contente pour elle. Donc
Tu te sentais pas insultée parce qu'on te disait
Bien sûr que non. C'est juste que moi ça n'a
pas ton expérience,
c'était
bien sûr.
Pas voilà, c'était pas ni mon expérience ni mon combat, mais j'étais bien sûr très heureuse que cette expérience puisse exister pour ces personnes-là. Ouais.
Et tu as dit aussi, alors j'ai eu l'occasion de te rencontrer donc il y a quelques temps pour l'épisode de Ça reste entre nous, une web-série qui donne la parole aux asiatiques, que j'ai co-réalisé cet épisode en particulier avec Boulom Souk Swatmifan, qui est notre ami qui porte la beauté, et dans lequel tu dis, et je trouve que c'est aussi un témoignage singulier qui est important à dire, tu m'as dit, je me suis toujours sentie belle, alors que moi, tu sais, je me suis toujours sentie moins belle que les autres. Et d'entendre ta parole en disant, moi, je me suis toujours sentie belle, et j'ai vu tes photos de 18 piges que tu mets sur ton Instagram, effectivement, t'es très belle, t'es toujours très belle, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et je me suis dit, waouh. Et quand j'ai vu le documentaire Les Rivières, et que j'ai vu ta daronne, j'ai compris comment...
Et là, j'ai compris.
J'ai compris comment est-ce que, tu vois, enfin, tout ce que tu décris, les maisons dans lesquelles tu as vécu, comment est-ce que vous preniez beaucoup de place, enfin, elle prenait beaucoup de place dans sûrement le petit village dans lequel vous viviez, c'était impossible d'humilier la culture vietnamienne en sa présence, je pense. Mais du coup, j'ai compris aussi dans comment est-ce que c'est, tu vois, nos parcours, enfin, tu vois, physiquement, alors les gens ne te voient pas, mais physiquement, de dos, de dehors, on pourrait se dire qu'on est sœurs. Enfin, je veux dire, voilà, on a des cheveux bruns, longs, on est asiatiques toutes les deux. Mais vraiment, le parcours de l'une et de l'autre est très, très différent.
Même le rapport, en fait, à l'identité.
Complètement.
Totalement.
Complètement différent.
Et tu vois, le fait de rencontrer Grace et aussi toute une communauté de femmes asiatiques en France avec ce que fait Julie Amaïd sur Koi et les femmes Koi.
Magazine Koi. Ouais.
Voilà, c'est, pour moi, c'est incroyablement riche de comprendre en fait que dans cette expérience asiatique, en fait, c'est très très lié à comment nos parents, les conditions dans lesquelles nos parents sont
venus,
c'est totalement lié. Nous, on était quand même dans une période où les Français sont allés chercher des boat people, ont bon an mal an accueilli les Vietnamiens. Moi, ma grand-mère, quand elle me parle de son arrivée en France, c'était une arrivée qui était compliquée parce que c'était compliqué.
C'était en quelle année, ta grand-mère?
Ça a dû être, du coup, dans les années, début des années 60. Mais du coup, elle me dit, j'ai eu un métier, j'ai pu commencer à être serveuse, j'ai pu commencer à être assistante maternelle dans une crèche. Et moi, j'ai mis 30 ans avant de comprendre qu'il y avait un déclassement social, parce qu'elle était femme de diplomate, mais que dans son vécu, c'était un truc génial d'arriver en France et de pouvoir travailler et d'avoir son propre argent, son indépendance et une forme de dignité, quoi. Donc du coup, évidemment que ça crée des narrations sur qui on est. Si on a été accueilli, notre intégrité, notre dignité, elle n'a pas été
mise à mal.
Mise à mal. Donc du coup, on a une forme de gratitude, alors qui peut donner aussi d'autres effets pervers. Tu vois, j'entendais que tu parlais plus Wolof. Ouais. Moi, je parle plus vietnamien, c'était ma langue maternelle, parce que comme ton père, mon père s'est dit, ben, Maï, elle parle pas assez bien vietnamien, pas assez bien français, pardon, donc on va arrêter de lui parler vietnamien.
Mais nous,
à la
c'était
maison.
Recommandé, hein. Je sais qu'à l'époque où j'ai grandi, c'était même recommandé. On recommandait en fait aux parents de ne pas parler leur langue d'origine parce qu'on disait que ça allait perturber les enfants.
Mais vous le comprenez toutes les deux?
Ouais, parfaitement.
Moi, je le comprends. J'ai un vietnamien d'un enfant de 5 ans, quoi.
Moi, j'apprends des mots. En ce moment, avec la série Maîtresse d'un homme marié, je me rends compte, je me dis « Ah !» Parce qu'en fait, c'est que les échanges de parents, quoi. Là, j'apprends des mots d'adultes. C'est comme ça qu'on dit ça. Tout le vocabulaire autour de la sexualité, évidemment, c'est pas les trucs que transmettent les parents. Donc, j'apprends.
Génial.
Ta lignée de femme, c'est une lignée de femme maudite. Et donc me vient cette idée folle. Je vais faire un film.
Maman, tu es la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange. Le visage d'un ange du paradis.
Du coup, peux-tu nous raconter donc ce cheminement qui t'a amené à faire ce film ?
Ouais, alors je vous avais parlé du blog. Donc, il y a eu un premier déclic qui a été le blog. Et donc, la confiance que ça m'a donnée sur le fait que j'étais capable de véhiculer des messages, de transmettre des messages et des émotions à des gens que je ne connaissais pas. Qui ne me connaissaient pas. Il y a eu ça. Il y a eu le fait que ma grand-mère... En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père a eu un cancer. Et donc, il y a eu une sorte de projection d'une fin de vie qui allait arriver. Et donc, il y a eu une sorte de fantasme total du retour à la Terre. Et donc, toute la famille et eux ont fini par décider de rentrer au Vietnam. Parce qu'ils avaient vécu 40 ans en France avant. Donc en fait, on ramène tout le monde au Vietnam. Et puis en fait, au bout de 2 mois, mon grand-père tombe.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Mourant. Et ma grand-mère, en fait, va vouloir rentrer tout de suite, sauf que mon grand-père était mourant, donc elle pouvait pas rentrer, parce qu'on pouvait pas les séparer. Et en fait, petit à petit, on voit notre grand-mère mourir. Mais sur une mort très très lente. Et au bout de 4 ans, en fait, on se regarde avec maman et on se dit, mais au nom de quoi, en fait, on la laisse au Vietnam ? Si ce n'est pour être à côté d'un mari qui de toute façon ne peut pas rentrer. Mais pourquoi est-ce qu'on la sacrifie, en fait ? Et donc, il y a eu une sorte de prise de conscience très très forte, puisqu'elle a toujours voulu rentrer, sauf qu'elle ne le pouvait pas. Et on la ramène. Le fait qu'on la ramène, qu'elle revienne chez elle dans un tissu familial, affectif, amical, et puis médical aussi, parce qu'en fait, ma mère, elle est docteur et guérisseuse surtout. Et du coup, ma grand-mère, elle va renaître de manière spectaculaire. C'est-à-dire qu'on la ramène, elle marche à peine, elle ne parle plus, on doit la laver, etc. Deux mois plus tard, elle est en train de danser jusqu'à 2h du matin.
Elle a un prétendant de 20 ans de moins qu'elle.
Donc, un truc de fou, c'est-à-dire que on est en train de toucher à une réalité que tu peux pas inventer, tu vois. On est sur au-delà du pensable, quoi. On est sur de l'impensable. Donc ça, c'est le deuxième truc, ouais. Et il y a eu un troisième truc qui s'est produit 5 ans plus tôt, qui est que un de mes oncles m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites.
Et très violent comme parole, ça.
Un truc de fou. Et en fait, il le dit avec un grand sourire et pour me rendre service. C'est-à-dire que... Non mais, je me rappelle de la scène qui maintenant me paraît totalement folle. Mais en fait, c'était le fameux moment où on ramène mes grands-parents. Je viens de me séparer du père de nos enfants. Donc je suis très très fragilisée par cette double situation. Et mon oncle arrive, prend un papier A4, il me dit « bah c'est normal en fait ». Et puis là, il me fait un arbre généalogique que j'ai recréé dans le film pour m'expliquer pourquoi... j'étais dans cette situation. Et en fait, la démonstration était parfaite. Et pour moi, c'était m'expliquer d'où je venais, quelle allait être ma trajectoire et celle de ma fille. Parce que c'était, tu viens d'une lignée de femmes maudites pour telle et telle et telle raison. Et en fait, ça fait totalement sens. Et du coup, ces trois choses-là m'ont mise en mouvement parce que je ne pouvais plus faire autrement. Et après des thérapies, et du yoga, et la méditation, et tout ce que vous voulez, je sens que le truc est toujours là. Il y a toujours quelque chose qui s'agite. Et du coup, je joue mon va-tout, je vais faire un film. Voilà.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu abordes des sujets quand même très, très intimes et très douloureux, notamment toute la question de la communication intrafamiliale, des secrets de famille, des traumatismes qui se baladent de génération en génération, des non-dits, et aussi tout ce qui est relatif aux violences sexistes, aux violences précoloniales ou postcoloniales. Puis à l'échec aussi par rapport au rapport qu'on peut avoir avec sa terre natale. Est-ce que toi, en racontant l'histoire de ta famille, tu avais la conscience de porter des sujets qui étaient des sujets en fait très très communs dans les familles, en même temps voilà, auxquels beaucoup de personnes pouvaient s'identifier?
Alors oui et non, c'est-à-dire que moi j'avais cette expérience du blog et j'avais cette expérience d'être en contact avec autrui et de potentiellement, et c'est comme ça que j'étais programmée, être une jeune fille modèle qui va vouloir plaire à tout prix. Et moi, c'était vraiment le piège dans lequel je devais pas tomber. Il fallait vraiment que je sois au plus près, du plus près, du plus près de cette histoire intime et de mon ventre, quoi. Donc, du coup, il a fallu que je me ferme à tout ça. Mais évidemment, au bout d'un moment, ça n'a pas été possible dans le sens où il me fallait me cultiver pour comprendre comment ça fonctionne, la mémoire transgénérationnelle, comment ça fonctionne, l'exil, et du coup, me documenter sur ces thématiques-là. Et donc, du coup, c'est aussi en me cultivant sur des choses qui sont dites comme universelles que j'ai pu réaliser mon film.
T'avais la conscience de cette portée, en fait, du film au-delà de l'histoire
de ta
famille ?
Mais après, non, j'avais pas la conscience que le film allait parler autant aux gens qui le voyaient. Ça, j'avais pas conscience parce que c'était... Il fallait pas que je prenne ça en compte dans mon équation.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Et comment ta mère, qui est dans le film, et ta fille, qui est aussi dans le film, et ta grand-mère, qui était là quand tu as fait le film et qui était terminé, comment ces femmes de ta famille, elles ont accueilli ce film ? Est-ce que c'était
horrible
aussi...
ouais.
On dirait que tu t'en es remise.
Non, on s'en est super remise. C'est-à-dire qu'en fait, c'était ce film, en fait, c'était vraiment à la vie à la mort. C'était à la vie à la mort pour moi, mais aussi pour tout le système familial qui était en train de mourir. Enfin, qui était déjà mort, en fait. Parce que ce qui nous reliait, c'était beaucoup d'amour, mais des dysfonctionnements qui étaient tels que ça nous est tous clamsé, quoi. Donc, du coup, il fallait détruire ce système familial. Et du coup, on l'a fait, quoi. Mais évidemment que dans ce cas-là, et c'est ce qu'on est en train de lire sur, tu vois, sur un projet plus global de société et d'humanité, ce système, il n'est possible que si le silence se fait. Et donc, faire un film, évidemment, que le partager, etc., c'est noyauter tout le système depuis l'intérieur, quoi.
Et comment elles ont réagi, du coup ?
Du coup, pour ma mère, ça a été très très dur parce que on avait des systèmes de loyauté en fait qui sont super bien ficelés. C'est un système qui perdure depuis des siècles et des siècles. Pourquoi ? Parce que c'est super bien ficelé ce truc. Donc ça a été très dur et en même temps ça a été une libération parce que c'était un travail qu'elle a entamé parce qu'elle a entamé beaucoup de thérapie, une libération de la parole dans la famille, dans notre fratrie aussi, qui a fait que nous on a pu prendre le relais et aller beaucoup plus loin que ce qu'elle n'avait fait. Mais tout ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas été toutes les quatre, quoi. Donc en fait, c'est l'union fait la force, mais en même temps, on n'avait pas prévu ce dans quoi on s'était engagé, parce que je pense qu'on voit assez bien dans le film que ma mère, elle est tout à fait opérationnelle pour être filmée, il n'y a aucun problème pour ça. Mais tout ce que ça révélait de nous, ça, on n'était pas du tout prêt à le voir. Et du coup, il a fallu dépasser beaucoup de peur, beaucoup d'ego, beaucoup de. Mais ça s'est fait, ouais.
Moi, quand j'ai vu le film, comme beaucoup de gens, j'ai remarqué, j'ai beaucoup pleuré.
Ouais.
Et je crois pas au même moment que les autres, parce que je pense que chacun pleure au moment qui la touche. Déjà, moi, je trouve que ta mère, c'est à la fois une antithèse de la mère et l'incarnation de la mère.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire que moi, en tant que mère asiatique, moi, ma mère, elle disait rien, elle parlait pas. Ta mère, elle parle tout le temps. Enfin, tu vois, c'est...
Elle prend de l'espace.
Elle prend beaucoup d'espace. Et vraiment, tu vois, déjà, rien que de voir une mère différente de l'archétype, de ce qu'on m'avait toujours... Parce que moi, non seulement ma mère ne parle pas, mais ma tante ne parle pas. Mon autre tante... Enfin, je veux dire, c'est...
Ouais, non, le silence, c'est quelque chose d'énorme dans nos cultures.
Sauf qu'elle parle beaucoup, mais elle n'a pas dit l'essentiel.
Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dites. Et il y a une scène que moi, que je trouve incroyable, c'est que vous avez des masques d'avion, là, sur la tête.
Ouais.
Vous vous parlez, il ne faut pas que vous vous voyez. Enfin, c'est incroyable parce que votre communication, elle se fait. Et là, à ce moment-là, vous dites des choses.
Ouais.
Et c'est quelque chose. Et alors, évidemment, moi, dans ma famille, donc, spoiler alerte, elle parle d'un. Enfin, c'est pas à ce moment-là, mais on parle d'inceste dans ce film. Évidemment, l'inceste, c'est quelque chose qui est très présent dans les familles. Et je pense que dans les familles asiatiques, comme dans toutes les familles, il y a aussi ce spectre qui est là. D'ailleurs, moi, tu sais, quand j'étais petite, j'avais jamais le droit de faire des soirées pyjama. Mais parce que mes parents étaient stricts, ça c'est sûr. Mais j'avais même pas le droit de dormir chez mes oncles et tantes.
Ah ouais.
C'est-à-dire que les frères de mon père et les frères de ma mère. Enfin voilà, j'avais pas le droit. Et d'ailleurs, c'était pas que. Enfin, et parce que mon père disait, une fille convenable, elle dort chez elle.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, c'était pas que les filles, parce que mon frère ne faisait pas de soirées pyjama. Donc c'était pas que ça.
Ouais.
Et ma tante, pendant très longtemps, son mari l'a abandonnée très tôt. Elle avait deux enfants très petits et elle s'est jamais remariée. Et elle m'a toujours dit, et ça m'avait trotté. Je me rappelle très bien, elle me dit, je me marie pas parce que je veux pas qu'ils aient un beau-père. Et en fait, elle disait pas. Et aujourd'hui, 40 ans, 50 ans après, je sais ce que ça... Enfin, je sais pas vraiment parce que je peux pas lui dire mais pourquoi t'as pas... C'est juste que maintenant, quand je vois ton film et que je remets... Je sais qu'il y a toujours eu des choses et qu'on ne dit pas ça aux enfants parce qu'on les protège.
Alors qu'en fait, c'est le meilleur moyen de pas les protéger.
Bah...
Et, ouais.
Donc, je voudrais citer un podcast que j'ai écouté récemment qui est le travail de Charlotte Bien-Aimée, de la journaliste que j'aime beaucoup et qui parle de l'inceste et de la pédocriminalité et donc qui date du 4 mars 2020 et qui dit qu'en France, il y a environ 2 enfants par classe d'école qui sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% de l'ensemble des violences sexuelles commencent avant 18 ans et dans 94% des cas, celles-ci sont commises par des proches.
Bien sûr.
Donc,
bien
c'est
sûr.
Des chiffres qui sont atterrants.
Ce qui est atterrant aussi dans le podcast, c'est vraiment la question de l'impunité. C'est-à-dire que les personnes sont identifiées, y compris par la police, parce qu'on a le cas d'un père... Il y a une espèce de ils sont convoqués, auditionnés, puis rentrez chez vous, salut quoi.
Et on ne sépare pas les victimes des bourreaux. Non. C'est-à-dire qu'on continue à se dire, vous pouvez y aller pour Pâques quand même.
Et puis l'organisation familiale aussi qui se crée pour vraiment faire en sorte que ce tabou en fait ne surgisse jamais. Et donc pour la victime, toujours immergée dans un système hyper violent et n'a jamais la possibilité en fait de s'exprimer ni d'être soutenue par l'environnement.
Et est-ce que le mouvement qui s'amplifie, toi, autour des violences sexistes et sexuelles, est-ce qu'il te touche? Est-ce que tu es optimiste par rapport à tout ce qui se passe ?
Bien sûr, ouais, je suis très optimiste. Si vous voulez, je pense que vous avez senti depuis MeToo, mais tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a... C'est hallucinant. Moi, la première, puisque le projet était pré-MeToo, mais évidemment qu'il a une autre portée ce dont on parlait au début de l'émission, du système dans lequel on est, et le système en crise dans lequel on est, et la crise qu'on provoque avec notre prise de parole. Donc, bien sûr que ça me touche énormément. Et moi, comment dire, j'ai l'impression qu'on est dans un moment de croissance personnelle, même spirituelle et politique. Simplement, évidemment, que moi je l'ai vu, là on en parlait avec les conflits qu'il y avait avec ma mère sur le film, c'était d'un côté, ma mère elle me disait non, et d'un autre côté elle me disait il faut que tu ailles plus loin. Donc c'était toujours une chose puis une autre, une chose puis une autre, et puis à la fin ça perce parce que ça fait sens en fait. Et une fois que tu as vu que l'ancien système ne fait pas sens, il y a un ordre des choses en fait. Tu es obligé d'avancer. Et c'est ce qui est en train de se passer, je pense. Je sais juste que je mesure juste à quel point les résistances sont fortes. Mais ce ne sont que des résistances, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire.
Avec tout ce qu'on a dit, est-ce que donc vous pensez que Les Rivières est un film asiatique? C'est donc ça la question. Parce que je lis sur ton site avec tristesse que le film n'a pas trouvé distributeur.
Ouais.
Et seul votre bouche à oreille et votre bienveillance lui permettront d'exister.
Ouais.
Donc déjà, moi, quand tu m'as dit que tu n'avais pas trouvé de distribution en salle, ouais, j'étais vraiment déçue pour toi. Et en même temps, je me suis dit, mais avec son réseau, tous les gens, enfin tout ce qu'elle fait, tous les gens qu'elle connaît, si elle n'y arrive pas, et ben en fait, qui y arrive en vrai? Non, mais c'est que je me suis dit, et donc, évidemment qu'il y a du Vietnam dans ce film, il y a vraiment beaucoup de Vietnam. Il y a des dialogues en vietnamien que tu as sous-titrés. Il y a évidemment des traditions, et les coupultures, enfin je veux dire, c'est un film qui parle de Vietnam,
chaque famille a ses propres traditions, c'est-à-dire qu'il y a plein de familles qui ont des modes de vie dans lesquels la plupart des gens ne se reconnaissent pas, et ça n'empêche pas qu'on considère que voilà, certaines familles ont une portée plus, soi-disant entre guillemets, plus universelle que d'autres.
Oui, et puis je pense que le cinéma, ça doit rester quand même un art de l'altérité. C'est-à-dire que si on va au cinéma uniquement pour voir le prolongement de soi-même, au secours, quoi.
Ouais.
Donc, il y a un moment donné où il y a...
Il y a un nom pour ça, hein, Okaya. Ça s'appelle le cinéma français.
Ils font des films sur eux-mêmes, entre eux, dans trois rues à Paris, à peu près.
Et toi, quand tu fais un cinéma, ils disent que c'est niche.
Non, mais c'est ça. Moi, j'ai entendu ça tellement de fois. C'est trop petit. C'est trop petit, votre film est trop petit. Et en fait, moi, j'ai aucune... Il y a ce truc de légitimité qui nous colle tout le temps au basque, mais je n'ai pas d'expérience non plus dans le monde du cinéma. Donc moi, on me dit mon film est trop petit. Un professionnel me dit mon film est trop petit. Je me dis, bon, bah, il doit être trop petit, quoi. Mais, et puis, il y en a deux, trois, quatre qui me le disent. Je me dis, bon, bah, vraiment, il est trop petit. Effectivement, c'est un film qui est fait pour ma communauté. Mais... quand je reçois les messages, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui me disent « mais putain, j'ai pleuré pendant 3 heures, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré comme ça. J'ai appelé ma mère, je ne l'avais pas appelée depuis 3 ans. J'ai cheminé avec ma femme, avec ma fille, j'ai enfin compris ce que veut dire MeToo pour ma fille. » Enfin, où il y a vraiment quelque chose d'agissant et d'opérant dans l'intimité des gens, je me dis « bah, c'est pas si petit que ça, quoi. » Ou en tout cas, il va falloir qu'il y ait une place qui se fasse pour ça, pour un art qui est agissant et qui permet aux gens de cheminer et de passer des paliers de conscience. Et je ne crois pas que ce soit le but du cinéma français qui est pratique aujourd'hui. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de bons films français, évidemment, ce n'est pas le propos.
Mais Les Rivières, elles ont contourné l'obstacle que leur posait le cinéma français. Donc tu as trouvé des alternatives pour que les gens puissent voir le film.
Bien sûr.
Mais pas en salle.
Évidemment,
mais
c'est pas parce que je suis pas validée que
ça pose quand même la question du financement et des moyens.
Oui,
parce que tu vois, si t'as pas le CNC, si t'as pas le distributeur, tu fais ton film avec des moyens beaucoup plus modestes et ça t'engage plus personnellement.
Ça m'engage plus personnellement. Et puis moi, je peux pas faire tu vois, je peux pas avoir un projet que Universal ou je sais pas quoi peut proposer. C'est-à-dire qu'il y a des compétences que je n'ai pas, il y a de la thune que je n'ai pas, il y a tout, en fait. Donc évidemment que le projet, il est fragilisé par ce manque de moyens, ça c'est l'évidence.
Et comment tu pallies ça?
Eh bien écoute, je me bats, j'en parle aux gens, je demande de l'aide aussi. Ça aussi, c'est nouveau pour moi. Il y a un truc dans la culture... enfin, dans mon éducation d'enfant d'immigrés vietnamiens, qui est, tu es dans un pays magnifique, tu es une femme, tu vas avoir ton bac C, puis une mention, et puis tes diplômes, et tout va bien aller. Et c'est pas exactement ça qui se passe. Mais c'est pas mal quand même, parce que du coup, je vois, enfin, mon frère a vécu au Vietnam pendant 8 ans, il y a un vrai système de censure, il y a un comité de censure. Mon film, il va certainement jamais passer le comité de censure là-bas. Pendant longtemps, ils n'ont pas eu Facebook, ils n'ont pas le droit de citer le gouvernement. Donc, je vois bien quand même que je suis dans un système qui permet quand même ça. Mais voilà, on a mis en place une VOD qui marche très bien. Il y a eu des... Avant le Covid, il y a eu des projections au cinéma des Trois Luxembourg qui étaient pleines tout le temps. On fait des débats. Puis cette tournée va reprendre. Ça va reprendre.
Et il y a aussi quelque chose que tu proposes qui est très intéressant sur ton site, c'est le livret.
Ouais, ouais.
Et tu encourages les gens à le voir en famille.
Ouais.
Parce que c'est quand même... c'est l'histoire de 4 générations ensemble. Et du coup... C'est aussi bien de le voir avec d'autres générations,
ouais,
peut-être.
Ouais. Ouais, de le voir avec d'autres générations. Et donc, du coup, c'est validé. Ça marche aussi sur des Français, sur des Espagnols, sur des Japonais. Et tout le monde comprend. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose de plus universel que ça. Mais le film, lorsqu'il est vu en famille, même avec des amis, entre sœurs, ça provoque en fait du lien. Ça crée du lien, ça provoque des discussions, ça provoque une écoute. Et c'est magnifique. C'est génial.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a changé chez toi, ce film ?
Mais tout. Ça a changé toute ma vie, ce film.
Ouais.
Parce que en fait, il y avait. Parce qu'en fait, enfin, vous voyez bien dans votre engagement politique pour rayonner dans cet engagement-là, il faut passer des caps de conscience, de confiance en soi, d'assises, quoi, d'ancrage qui sont vachement forts. Et moi, j'étais vraiment une feuille errante comme ça. Et voilà. Et du coup, quand un oncle te dit ma chérie, tu viens d'une lignée de femmes maudites, voyons, moi, ouais. Mon monde s'écroule. Ouais. Aujourd'hui, mon monde, il s'écroule pas.
Ouais, maintenant, tu arrives à remettre en question.
Et bien sûr, j'arrive à avoir un œil critique et à pas m'effondrer selon qu'il fasse beau ou moche ou que ton oncle t'ait dit une chose ou une autre. Et puis après tout, il m'a mis sur une vraie fausse piste, mais qui m'a quand même mis en chemin, quoi.
Parce qu'en fait, finalement, ce que tu vois, c'est une ligne de femme très très forte.
Bah, bien sûr. Ce que je découvre, c'est la et ce qui est fou, c'est que donc j'ai tourné pendant 3 ans. Après, j'ai monté pendant 3 ans. Il y a eu une année qui s'est recoupée. Et en fait, quand j'ai montré mes images, au bout de 2 ans à peu près, donc, au premier monteur avec qui j'ai travaillé, il me dit « Mais vous n'êtes pas du tout maudite, les meufs. Ça va super bien. Vous êtes une famille en bonne santé. Vous êtes une famille où il y a de la parole. Vous êtes une famille où, lorsqu'il y a des épreuves, vous les passez ensemble. Putain, mais... J'aimerais te dire que moi, je ne parle plus à ma mère. et du coup, tu vois, ça...
Ouais.
Et du coup, cette histoire de malédiction, c'est que des histoires de croyances. Mm-hmm. Et du coup, dépasser ces croyances...
Ça fait un peu Indiana Jones, tu sais, et le temple.
Totalement, totalement. Mais moi,
c'est un
classique
aussi dans la mythologie, les femmes qui sont maudites.
Bien
c'est quand
sûr.
Même quelque chose qui revient de manière régulière, quoi. Qui sont à l'origine de tous les malheurs, qui vont maudire toute la lignée.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais du coup... Bah, c'est ce qui m'a mis en mouvement quand même, quoi. Donc,
non, mais
voilà.
C'est génial. C'est... Ouais. Donc, on vous recommande chaudement d'aller voir le film Les Rivières sur le site de MyUA. Donc, c'est www.lesrivières.myua.fr. Donc, on mettra les ressources en description de l'épisode.
Merci.
Ouais,
on arrive à la fin.
Déjà.
Voilà, si ça vous a parlé, vous avez des questions que vous vous posez, si vous-même la trajectoire de MyUA fait écho à des trajectoires personnelles, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Vous pouvez la suivre sur ses réseaux, parce qu'elle a des réseaux
sur Instagram.
Ouais,
notamment.
MyUA. Il est très actif.
C'est un euphémisme.
Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires donc, sur cet épisode avec le hashtag Kiftaras et en taguant aussi Mai si vous voulez avoir sa réponse. Kiftaras, c'est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rokhaya.
Merci Grace.
Merci Mai.
Merci à vous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.